France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, aujourd'hui, nous nous plongeons dans la cuisine de la musique ancienne avec vous.
Oui, parce que je vous assure que ça vaut le coup de s'intéresser à toutes les recherches effectuées par les musiciens pour interpréter une pièce ancienne. Une pièce du 19e siècle, ça c'est facile, tout est sur la partition. Les indications de tempo, les accents, les ralentis, etc. Il suffit d'y verser toute son âme et le tour est joué. Bon, j'exagère évidemment, mais en musique ancienne, avant même de pouvoir verser toute son âme, il y a tout à faire. Pour n'importe quelle pièce, il faut se poser plein de questions. C'est pour quel instrument? C'est pas toujours noté. Quelles étaient les distances entre chaque note à cette époque? Quels ornements étaient pratiqués, je sais pas, en 1623 à Florence, etc. Toutes ces questions font que d'un interprète à l'autre, une même pièce peut sonner très différemment selon les recherches effectuées. Une sarabande peut sonner comme ça. Ou alors elle peut sonner comme ça.
Effectivement, c'est pas le même tempo du tout.
Et oui, et je voudrais vous parler de ça aujourd'hui. Comment savoir à quelle vitesse jouer les pièces de musique ancienne? Il y a une phrase de fumiste qui revient de temps en temps, c'est...
Oh bah de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on saura jamais comment c'était joué en fait.
Et ça c'est vraiment la phrase facile pour faire, parce qu'on veut sans s'embêter à lire les sources et les traités de l'époque. Et c'est dommage, parce que niveau tempo, on sait des choses. Par exemple, 1696, Loulier conçoit un pendule dont le balancier permet de mesurer le temps entre chaque pulsation. Il a ainsi mesuré les tempos chez Lully qui venait tout juste de mourir et ça a été converti en nombre de noires ou de blanches par minute, le système qu'on connaît maintenant. Ce qui fait qu'on sait que dans l'air « Écoutons les oiseaux » dans Attis de Lully, il devait y avoir 51 blanches par minute et ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, Attis au tempo voulu par Lully.
Et alors pour le répertoire encore plus ancien, Christophe?
Alors là, nous plongeons dans une toute autre philosophie, celle de la Renaissance. Là, il faut se défaire de tout ce qu'on connaît. Aujourd'hui et depuis longtemps, c'est le compositeur qui impose la vitesse de son morceau, qui indique la rapidité de la pulsation. Mais là, je vous transporte à une époque, celle de Léonard de Vinci, où la musique n'était pas régie par le tempo du compositeur, mais par une pulsation plus universelle, plus organique, qu'on retrouve d'une pièce à l'autre. Nous sommes en 1558, si nous ouvrons les pages du Istituzioni Armoniche de Giuseppe Zarlino, nous pouvons lire que...
Parce que les musiciens ont vu que le désordre pouvait naître de la diversité de toutes les voix mises ensemble, ils ont conçu un geste qui oriente chaque chanteur. Ce geste est fait par la main de façon régulière, comme les mouvements du cœur humain.
C'est ce qu'on appelle le tactus. Et c'est une bonne référence, le cœur. Nous avons tous en nous ce métronome qui donne une pulsation régulière et commune à tous les musiciens de Vérone, de Venise, de Florence ou de Sienne. Milan, 1496, Practica Musica de Franquinus Gafurius.
La vitesse d'une semi-brève se rapproche du pouls de quelqu'un respirant normalement.
C'est-à-dire à peu près 72 pulsations par minute. À ma connaissance, c'est la première source qui mentionne le rapprochement entre la pulsation cardiaque et un rythme.
Intéressant.
Mais attention, Gafurius ne dit pas qu'il faut qu'une ronde aille à 72 par minute. Il rappelle simplement que c'est à peu près le tempo adopté par tous à son époque. Il ne prescrit pas, il décrit. Mais pour nous, aujourd'hui, ça nous aide. On va prendre un exemple. Écoutez le Zefiro Torna de Claudio Monteverdi dans une version plutôt ancienne, 1957. Zefiro, 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 Zefiro. Et écoutez maintenant une version qui, par hasard, est un peu plus proche du rythme cardiaque d'une personne respirant normalement. Chaque mesure contient 2 battements de cœur. Et tout de suite, la musique prend plus de vie, ça paraît plus naturel, plus allant, le texte est mieux illustré, les ritournelles instrumentales et vocales paraissent plus véloces. Bon, évidemment, c'est à considérer avec précaution, c'est très discutable et discuté, cette histoire de pulsation et de pulsation de cardiaque. On ne peut pas dire que toute la musique ancienne soit régie par ça, mais ça nous rappelle que le tempo imposé par le compositeur, les Berlioz et les Beethoven, ça c'est une invention récente. Avant, il fallait plutôt composer avec le rythme physique des danseurs, il fallait donner le temps d'ornementer, il fallait que l'instrumentiste ou le chanteur puisse être virtuose mais rester intelligible, etc. Mais n'empêche que ça rassure. Effectivement, en tant que musicien et historien aujourd'hui, dès que nos choix de tempo marchent, entre guillemets, on s'aperçoit qu'il y a une pulsation proche de 72 battements par minute, Gabriel.
Moi j'ai l'impression que mon cœur bat plus vite dès que vous êtes à mes côtés.
Disons, ça va jaser sur internet ça encore.
Merci beaucoup pour cette chronique tendez l'oreille que l'on peut réécouter bien sûr sur notre site francemusique.fr ainsi que sur l'application Radio France. Je vous souhaite un bon week-end, Christophe.
Vous aussi, bonne semaine à tous.
Merci beaucoup à toute l'équipe de France Musique et à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.